Bonjour, bienvenue à Je vais au ciné, comme tous les lundis à 14h. Aujourd'hui, nous avons Mickaël.
Oui, bonjour.
Bonjour Mickaël, tu vas nous faire une chronique aujourd'hui.
Ouais, là cette fois j'ai envie.
Ah, t'as envie là cette fois. Et on a aussi des personnes de Polymoges 41,
bien plus qu'un studio.
on a Alexia Hurier et Frédéric Choquet avec nous.
Oui, bonjour.
Salut.
Mais avant, on va commencer par Mickaël. Et j'ai toujours une super surprise pour mes chroniqueurs.
King Kong, si tu es rien, à côté de moi.
Donc tu vas nous parler de King Kong, c'est ça?
Ah, tu me l'avais promis, effectivement, j'ai pas.
T'as pas la référence.
J'ai pas.
Oui.
Cette semaine, j'ai déterré pour vous une très ancienne musique de film. Ça s'entend un petit peu d'ailleurs, hein, quand on tend un peu l'oreille. Alors, un peu de contexte. Nous sommes en l'an de grâce 1933. Et cette année-là... Non, ne chantez pas.
Non, on ne chante pas.
Et sorti un film, ouais, c'est fou, je sais, qui va marquer des générations de cinéphiles, King Kong.
Et... On le connaît pas celui-là.
Ah non, pas du tout, absolument pas. Franchement, qui n'a pas l'image en tête d'un singe qui grimpe tout en haut de l'Empire State Building?
Avec une femme dans sa main, quand même, parce que c'est important.
Ouais, c'est important, c'est vrai.
Une blonde.
Bah oui, il faut que ça ressorte sur l'image. Et pour une fois, il s'agit d'une création originale. Le personnage de King Kong ne vient pas de la littérature. Ça, c'est une petite info pour frimer dans le prochain repas de famille.
Oui, ça, je sais.
Ça va, pas besoin d'être... Ah, voilà, c'est ce qu'on dit sur la culture, hein, voilà. Si besoin de rappeler... Alors, de quoi parle ce film? Anne Darrow, interprétée par Faye Ray, figurante sans travail et engagée par le réalisateur Carl Denham pour être la vedette de son prochain film. L'équipe de tournage se rend sur Skull Island, une mystérieuse île où vivrait une créature légendaire vénérée par des indigènes. Une fois débarquée, l'équipe est attaquée par les indigènes qui enlèvent Anne pour l'offrir en sacrifice à Kong, bien sûr, un singe gigantesque totalement disproportionné. Celui-ci kidnappe à son tour la jeune Anne et toute l'équipe se lance à la poursuite de King Kong dans la joie et la bonne humeur. Non, pas dans la joie et la bonne humeur, pour la sauver. Bon, alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la musique? Alors j'y viens. Autant dire que King Kong a marqué l'histoire du cinéma, autant dire que sa musique est aujourd'hui considérée comme la mère de la musique de film hollywoodienne. Rien de moins.
Carrément, mais là tu vas très très loin.
Oui, je vais très loin, mais ce n'est pas moi qui le dis. Max Steiner est à l'origine de cette musique. C'est un compositeur autrichien d'origine juive. Il a fui l'Europe et la montée des régimes totalitaires pour atteindre les États-Unis et devenir quelques années plus tard, avec cette BO, le père de la musique de film symphonique hollywoodienne. Je vais expliquer pourquoi. La musique de King Kong telle qu'on la connaît n'aurait pas dû voir le jour. Je vous raconte l'histoire.
Elle n'a pas eu de maman ni de papa.
Non. Lors de la première projection du film, les producteurs du studio n'étaient pas satisfaits du résultat, notamment sur les effets spéciaux. Alors ils demandèrent à Max Steiner, qui était le directeur musical du studio, d'améliorer, entre guillemets, le film en y intégrant une sélection de morceaux existants. En effet, il faut savoir qu'à cette époque, une musique de film originale, c'était extrêmement rare. La plupart des films piochaient dans un catalogue où étaient répertoriées différentes musiques, la plupart issues de la musique classique et classées selon l'ambiance qu'elles devaient dépeindre. Mais Steiner était bien décidé à créer une musique originale pour ce film. Alors, en accord et avec le soutien financier, parce qu'avec de l'argent, c'est toujours mieux, du réalisateur Marian C. Cooper, il fit enregistrer une BO originale par 80 musiciens dans le dos des producteurs. Oh, le coquin.
Puis 80 musiciens, ça se cache pas facilement.
Cette musique use principalement de deux procédés. D'abord, le leitmotiv, c'est-à-dire l'emploi de thèmes musicaux attachés à un personnage, à un lieu, à une relation, à un événement particulier, etc. etc. C'est un procédé qui a été utilisé par Wagner et qui a été créé par lui. Ensuite, le Mickey Mousing. Et non, c'est pas une vanne. Ce procédé consiste à souligner ce qui est montré à l'image, franchement allant parfois jusqu'au grotesque. Bah, il faut être indulgent à cette époque-là. La musique, c'était presque la première de ce genre. En plus, la musique hollywoodienne, si on prête attention, aime bien souligner l'image avec la musique plutôt que de raconter autre chose que ce qui est montré. On peut dire parfois en regardant une séquence, bon merci, je vois le monstre qui arrive, pas besoin de sortir la trompette, merci, c'est bon, j'ai compris. Mais ça n'empêche pas Max Steiner de créer des ambiances angoissantes collant parfaitement aux images, comme par exemple la scène du sacrifice. Ceux qui, contre toute attente, parce que on est quand même dans un film, donc King Kong va tomber amoureux de la fille qu'il a kidnappée. Coucou la belle à la bête. Steiner en profite pour créer un thème mélodieux romantique servant de répit au milieu de cette bande-annonce plutôt sombre.
Tu pleures et en même temps que tu as envie de danser. C'est le truc bizarre.
De danser, pourquoi pas, je sais pas. Mais de pleurer, ouais, c'est un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est le moment romantique. C'est beau, c'est beau. Le répit est tout de même de courte durée. Le récit nous emmène à la scène finale emblématique dans laquelle, comme je le disais au début, King Kong s'adulcine entre les mains, comme tu l'as reprécisé, grimpe tout en haut de l'Empire State Building avant de trouver la mort au sommet. Oui, pardon, spoiler. La musique de cette scène est tellement descriptive que même sans les images, on comprend qu'il y a eu chute.
Il manque un cri là, le cri habituel, mais il n'y était pas.
Ah, mais le cri n'est pas dans la musique, il est dans le.
Mais il n'y est pas à cette voilà. époque-là.
Avec cette musique, Max Steiner participa à l'un des plus gros succès du studio. Une fresque novatrice, tant sur les effets spéciaux, rien que pour la culture, regarder ce film, ça vaut le détour pour les effets spéciaux, et que sur la musique qui fait entrer le cinéma de cette époque dans une nouvelle dimension. Cette BO est encore aujourd'hui considérée comme un cas d'école et une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs américains, Jerry Goldsmith, John Williams, pas des jeunes premiers, mais quand même. Et quand même, c'est plutôt amusant de savoir que la musique de films américaines doivent tout à un Européen.
Merci Mickaël pour cette chronique. On va enchaîner sur King Kong Song de ABBA, qui correspond bien à King Kong. Et on se retrouve juste après.
We'll be right back.
Eh bien, nous revoilà. On a avec nous Polymage 41, bien plus qu'un studio, avec Alexia Hurier et Frédéric Choquet. Donc on va parler un petit peu plus de la diffusion des films faits par Polymage 41, j'ai du mal. Donc comment vous allez faire la diffusion de vos films et comment vous faites la diffusion de vos films?
Alors, on va plutôt orienter sur le concours, parce que là, c'est vraiment propre.
C'est vraiment propre au concours.
Propre au concours, cette méthode de diffusion. Donc là, je vais laisser parler Alexia.
Du coup, pour resituer déjà, donc, c'est d'abord un appel à scénario qu'on fait. Donc là, on a jusqu'au 21 novembre pour envoyer un scénario qui fasse maximum 3 pages. Et... le but après, c'est de faire des courts-métrages, donc entre 1 à 3 courts-métrages dans l'année, donc avec 1 à 3 scénarios qui sera choisi. Donc chaque court-métrage serait réalisé sur 1 ou 2 week-ends. C'est pour ça qu'on pose des conditions, dont pas trop de décors, pas trop de personnages, pas trop d'effets spéciaux. Et ces courts-métrages, à la fin, ils ont pour but d'être envoyés en festival. Et pour certains, d'être diffusés dans des salles de cinéma partenaires à Polymage 41, avant la programmation des films, en fait.
D'accord, oui, en avant-première, avant la diffusion dans des festivals ou dans d'autres lieux, en fait.
Exactement.
Ce qui est important, c'est que c'est dans des salles de cinéma dans les 6 départements,
oui.
Déjà.
De
la région centre, et donc diffusé juste avant les longs métrages que le public a l'habitude de voir dans ces salles-là. Donc pour ceux qui jouent le jeu, c'est à la place des pubs, comme ça se faisait, comme on en discutait
dernièrement. Comment ça se faisait avant, et c'est même comme ça que le CNC a défini le court et le long métrage, puisque ça remonte à très longtemps. Au tout début, pour resituer, les courts-métrages étaient diffusés avant les longs-métrages. C'était une obligation de toutes les salles. Alors, ils en diffusaient un, puis plusieurs. Et puis, à un moment, ça a été arrêté, je ne sais plus, dans les années 70, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ouais. C'est comme ça que le public découvrait de jeunes talents. C'est comme ça qu'on a découvert Mathieu Kassovitz, avec Fierro Lopou. Son premier court-métrage, qui est, pour ceux qui l'ont vu, qui est quand même, je vous conseille de le regarder, il est sur YouTube, je crois. Voilà, il a fait 3 courts-métrages, comme c'était dans la production cinématographique actuelle du parcours d'un jeune auteur-réalisateur, il fallait d'abord qu'il fasse ses preuves en faisant 3 courts-métrages, parce que s'il fait qu'un court-métrage et qu'il marche, ça peut être un coup de chance. S'il en fait un deuxième et qu'il marche aussi, là, c'est déjà moins un coup de chance. Si les 3 qu'il fait marchent très bien, là, le producteur qui est derrière lui dit, il fait confiance pour son premier long derrière. Voilà, c'était une manière aussi d'assurer en fait que cette personne avait du talent et qu'on pouvait mettre des billes puisque derrière financières. Puisque, bon.
À l'heure actuelle, il y a encore de toute façon des courts-métrages qui sont faits par des jeunes réalisateurs. Ça vient pas toujours à 3, souvent c'est 2. Moi j'en vois souvent que c'est 2 maintenant.
Ça a changé effectivement. Puis bon, on la donne maintenant avec YouTube. Vous faites un film, vous, en France, en catimini, sans forcément une boîte de prod. Ouais. C'est vu à l'autre bout de la planète. Je pense que vous avez dû voir ce film. C'est un court-métrage qui avait été fait par 2 jeunes Français. C'est quand même important de le souligner. À la suite de la sortie de la trilogie Matrix.
Ah oui.
Ils ont fait la suite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était aussi, extraordinaire.
Il y avait aussi la compile de Animatrix qui avait plutôt bien marché aussi à l'époque, après le film. Mais il y a aussi plein de festivals qui permettent de faire... Oui.
Tout à fait.
Donc après, je ne sais pas si le court-métrage ou les courts-métrages iront en festival.
Alors,
c'est le but après, ouais, de pouvoir les envoyer en festival. Le but, c'est aussi de faire vivre ces films qu'on va créer. C'est pas juste de les tourner et qu'ils restent dans un placard ensuite. Nous, ce qu'on veut, c'est justement un petit peu aussi dénicher ces talents qui... Alors, des fois, c'est des gens qui ont de l'expérience dans l'écriture de scénario, mais il y a des gens aussi qui savent écrire et qui n'ont jamais vraiment fait de cinéma. Donc là, c'est une chance pour eux, justement, d'avoir derrière une équipe de gens qui sont confirmés, qui savent ce qu'ils font, et de faire un produit de qualité tous ensemble, et donc de l'envoyer ensuite en festival, qu'il soit vu par des gens, quoi.
Voilà. Parce qu'on met à disposition, hein, ce qu'il faut que ça soit bien clair, on met à disposition une équipe technique, d'accord, et des moyens techniques aussi pour réaliser donc les œuvres qui ont été sélectionnées. Donc ça, c'est une chose importante.
Ouais.
Voilà. Et puis, on prend en charge aussi l'inscription dans les festivals.
Ok. Donc après, il aura une vie au-delà de juste faire un court-métrage. Il aura une vie après.
C'est ça.
Et puis après, vous voulez faire aussi une diffusion dans l'éducation nationale, socio-éducative, culturelle.
Alors, c'est pas une diffusion. C'est-à-dire qu'à Polymage 41, bien plus qu'un studio, on a deux départements. On a un département pro,
ouais,
où on fait vraiment de la fiction, court-métrage ou long-métrage, quand ça se présente aussi avec des équipes pro. Mais on a aussi la partie socio-culturelle, mmh, qui est ouverte à tous les passionnés.
D'accord.
D'une part, et aussi à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à cet art-là. Et je pense notamment à tout ce qui est le milieu du handicap, et le milieu aussi du troisième âge. Donc on travaille avec les ESAT, on travaille avec les EHPAD, on travaille avec des autistes. Voilà. Et on travaille aussi, effectivement, on parlait de l'éducation nationale, on travaille aussi avec les primaires, donc les CE2, CM1, CM2, où on va dans leur classe et on les initie, on fait des petits ateliers sur 4 mois, à l'issue de laquelle ils réalisent un petit film. Donc ils apprennent à écrire, à raconter, à filmer. Voilà. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est leur apprendre aussi à regarder une image et à l'analyser pour ne pas tout gober comme ça. Voilà, c'est important, c'est l'éducation à l'image, c'est quand même un rôle important, surtout maintenant, on vit dans un monde d'images arrêt. On est noyé sous les images. Donc, c'est important qu'ils puissent discerner aussi, puisque vous le savez très bien, les images peuvent être trafiquées comme le son peut être trafiqué.
Bah, à partir du moment où on fait du montage, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les images.
Voilà. Donc, c'est une part importante pour ces jeunes de les initier à ces techniques-là.
Moi, je me souviens personnellement, au collège, avoir eu un petit atelier sur le cinéma. Et on avait étudié le nom de la rose. Et ça avait un gros impact sur les gens qui avaient participé à cet atelier. Et non, je pense que c'est une bonne chose que déjà jeune, on puisse avoir accès au cinéma et à l'analyse de films ou même de vidéos, de façon générale.
Oui, en plus, ça peut révéler aussi une passion. C'est-à-dire que pour un jeune, tout d'un coup, ça peut être révélateur. On a eu le cas, nous, sur deux ou trois élèves, sur les 5 ou 6 classes avec lesquelles on a déjà travaillé, où il y a une révélation, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ça se voit. Donc c'est déjà intéressant aussi à ce niveau-là.
Ok. Quelque chose à rajouter sur le concours ou même sur Polymage?
Sur le concours, on l'a dit, c'est jusqu'au 21 novembre.
Où on peut le retrouver déjà sur votre site?
Et alors, on peut retrouver donc le règlement et les fiches d'inscription sur le site donc www.polymage41.fr. Ainsi que sur notre page Facebook, donc Polymage 41, bien plus qu'un studio.
Et sur le site de Studio Zef, sur l'article de cette émission qui sera sur Studio Zef. Donc je vous mettrai les liens sans problème.
Voilà. Après, Alexia, tu as quelque chose à
dire. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, quel que soit le niveau que vous avez, en fait, faut pas avoir peur de tenter. Parce que y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont pas forcément du milieu du cinéma, mais qui ont des idées. Et même si vous savez pas forcément écrire un script dans le bon format, c'est pas si grave que ça, en fait.
Là, c'est surtout de faire un synopsis, au moins, je pense, non ?
Bah, on aimerait bien que ce soit quand même entièrement écrit, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment les idées. Après, nous, on peut toujours aider à retravailler un petit peu derrière.
Oui, la réécriture après le scénario, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est pas forcément la forme, mais c'est le fond du scénario pour ce concours.
Oui, aussi bien sûr, parce que une bonne histoire, et je pense que vous êtes tous d'accord, c'est un bon film, c'est avant tout une bonne histoire. On se souvient plus du scénario, je pense surtout, par exemple, vous l'avez certainement vu, Usual Suspects, où le scénario est quand même, à la fin, on regarde le film une deuxième fois parce qu'on est sûr qu'on a bien tout compris.
J'ai raté un truc là.
Voilà, donc c'est vraiment important. Mais je voulais aussi rajouter une dernière chose aussi, c'est que Évidemment, qui dit concours dit jury. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a dans les membres du jury, il y a 9 membres du jury. Donc là, on a eu la chance que des professionnels aient accepté de faire partie des membres du jury. Et très éclectique, c'est-à-dire il y a des professionnels du milieu du cinéma, mais on a aussi des professionnels de l'écriture aussi, donc, et du socioculturel aussi. Voilà.
Donc, okay. Okay. Donc on a plein de milieux différents. Et puis c'est votre premier concours.
Tout à fait.
Donc bah, on va suivre ça et puis vous reviendrez en parler une fois que le concours sera terminé.
Bah, volontiers.
Et puis on va enchaîner avec une musique Sirba de Vladimir Kosma pour le Grand Blond avec une chaussure noire. Frédéric Choquet, Alexia Hurier de Polymage 41, bien plus qu'un studio. Et Mickaël, tu vas nous parler d'un film.
Oui. Alors après le blockbuster la semaine dernière, eh bien le film d'auteur cette semaine. Et je suis comme ça, je suis jamais où on m'attend. C'est, voilà. Bref.
C'est bien, change un peu de registre.
Bon, alors après, dans le genre film d'auteur, il n'a pas connu une sortie confidentielle puisqu'il s'agit de la dernière Palme d'Or, Parasite de Bong Joon-ho.
Ah ben oui, on a pratiquement tous entendu parler de ce film.
On a tous entendu parler de ce film.
Bon, pratiquement, il y a au moins un ou deux ratés sans doute.
Au cas où, un petit résumé. En fait, c'est la famille Ki Taek. Oui, mon coréen est excellent. Chômage et s'intéresse de près au train de vie de la richissime famille Park. C'est le début d'un engrenage qui va progressivement devenir incontrôlable. Alors je sais que ce résumé vous a rien dit, mais c'est difficile de résumer ce film sans spoiler et sans gâcher un petit peu le plaisir de le voir. Alors j'ai pas grand chose à dire de ce film, sinon que c'est certainement, en tout cas pour moi, l'un des films de l'année. Le scénario est intelligent et plus subtil que pourrait le laisser penser le rapide résumé que je viens de faire. La réalisation est au top, les acteurs sont au top. C'est un film d'auteur qui est accessible. En plus, pour certains qui auraient des réticences à regarder un film d'auteur...
Surtout coréen.
Coréen et qui plus est, Palme d'Or du film de Cannes. Déjà, rien que ça, Palme d'Or en général, ça peut faire fuir une partie du public.
Ouais, dans les Palme d'Or, il y a eu des films qui ont un gros succès, qui ont bien
ouais,
marché.
Bien sûr. Oui,
mais là,
bien sûr.
Plus,
oui, bien sûr. Mais
d'un pays pas forcément évident.
Faut reconnaître quand même que Palme d'Or, ça peut tout de suite, ça pose... ça pose le film dans une catégorie qui peut rebuter. Donc pour ça, je dis, il est accessible, même si c'est une palme d'or. Franchement, ça serait bête de passer à côté. Le réalisateur jongle dans son film entre plusieurs styles. C'est très, c'est franchement très intéressant, avec une bonne petite critique sociale acerbe en prime. Donc, comme je disais, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. Parce que si vous n'avez qu'un seul film à voir cette année, choisissez celui-là, vous ne serez pas déçus.
Donc, Parasite de
Bong Joon-ho.
Voilà. Et puis moi, je vais vous parler d'un film, je pense que je vais vous parler de Nevada, de Laure Clermont, de Laure de Clermont-Tonnerre. J'ai du mal à dire son nom, pourtant c'est pas si compliqué que ça. Ça parle du milieu carcéral américain avec l'élevage de chevaux qui se passe au Nevada, il me semble, si le film dit pas de bêtises, enfin si le titre me trompe pas. Donc ça se passe dans une prison où ils essayent de sauver des Mustangs qui sont à l'état sauvage parce qu'ils manquent de nourriture. Il y avait déjà eu d'autres films récemment sur le sujet. Et là, c'en est un nouveau sur ce sujet-là, avec un personnage central qui a des difficultés sociales, mais aussi des difficultés avec sa colère. Il a vraiment besoin d'extérioriser un certain nombre de choses. Et puis, il rentre dans l'élevage de chevaux sauvages de façon compliquée, puisqu'il n'a pas de patience, il est assez nerveux. Et donc le cheval qu'il va devoir dresser est certainement le cheval le plus agité qu'il y a, où tout le monde a un peu peur de lui, et lui, il n'en a pas peur, il s'en approche. Et le cheval est plutôt calme à son approche. Donc, c'est relativement deux personnages qui sont... assez difficile à tenir, en fait. Et donc tout le film est sur cette relation entre ces deux personnages, qui est le cheval et ce prisonnier. Et il y a tout un monde autour d'eux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chevaux et d'autres personnes pour s'en occuper, des chevaux dont le directeur de cet élevage. Tout se passe dans le milieu carcéral, c'est-à-dire qu'ils sortent jamais, même quand ils vont devoir vendre les chevaux à la fin, parce que c'est le but final de cet élevage, c'est de vendre les chevaux pour financer le programme et puis pour sauver les Mustangs qui sont encore sauvages. L'idée de ce film, c'est un rapport entre le fait qu'un cheval devient prisonnier, puisqu'il a perdu sa liberté, il devient prisonnier pour devenir élevé, mais pour survivre. Et la même chose pour lui, survivre dans le milieu carcéral. C'est un peu ce parallèle-là entre l'animal et l'humain. Ce film est intéressant, il est calme, pas forcément très énergique. On peut se sentir un peu lâché à des moments, parce que pour un film carcéral, c'est très calme. Ça avance pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a très peu de choses qui se passent. C'est très sur la vision de ces deux personnages-là, puis tous ceux qui les entourent. Donc c'est un film intéressant qui a peut-être pas un public habituel du milieu carcéral. C'est un peu comme si vous cherchez à regarder Driver et voir un film d'action derrière. C'est peut-être pas le meilleur moyen. Mais c'est un bon film plutôt psychologique et plutôt sur le côté sentimental, sur le côté un peu émotionnel plutôt que sentimental. Donc voilà, Nevada, c'est de Laure de Clermont-Tonnerre. J'ai réussi à le dire ce coup-ci.
One point
sur celui-là. Et puis on va se laisser là-dessus et puis se retrouver la semaine prochaine avec d'autres personnes autour de la table. Je vous dis au revoir et puis
au revoir et merci.
On se retrouve lundi à 14h comme chaque semaine.